Nzamba.
Nzambira samirana.
Le journal avec Pierre Gahungu.
Nous sommes mercredi 17 mai 2023. Vous suivez bien la radio Nzamba à Gate Kakawe. C'est le moment du journal dont voici d'abord les titres. Le directeur de la prison de Muyinga n'a pas le droit de maltraiter la journaliste Floriane Ilangabiye. C'est ainsi que la présidente du mouvement Inamahoro fustige l'attitude de Serge Savouandemier qui a insulté et bousculé cette détenue. Et puis c'est la confusion totale chez les militaires, une situation due à deux communiqués qu'ils estiment contradictoires sur la gestion de leur salaire. Vous aurez les précisions dans ce journal. En fin de journal, on fera un saut au Malawi, où les nouvelles ne sont pas du tout bonnes pour les réfugiés urbains et les demandeurs d'asile. Le gouvernement a décidé de les mettre tous dans l'unique camp du pays, à Daleka, et une rafle a été organisée dans la capitale Lilongwe, où des réfugiés ont été arrêtés. À toutes, à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Inquiétude chez les militaires suite à deux communiqués contradictoires sur la gestion de leur salaire. D'abord celui du chef d'état-major qui promet la correction des erreurs liées à la hausse de leur salaire et ensuite celui du directeur général de la coopérative d'épargne et de crédit pour l'autofinancement des militaires, CECADEM, qui lui dit que le montant des frais bloqués sur les comptes des militaires est une hypothèque pour un nouveau mode de paiement. Les précisions avec Bonfils Niongele.
Les militaires et policiers alertent la présidence de la République pour un probable vol organisé selon leur dire. Ces derniers, ayant bénéficié d'une revue à la hausse de leurs salaires respectifs, avaient pourtant révélé des irrégularités qui ont émaillé cette revue à la hausse jusqu'à voir sur leur compte individuel une somme d'argent qu'ils ne sont pas autorisés de retirer avec la note bloquée. L'état-major général de l'armée avait récemment annoncé dans un formulaire de message qui a circulé dans les divisions et unités militaires que ces irrégularités seront corrigées avec le paiement des salaires du mois de mai. Ce message avait pourtant apaiser les tensions chez les militaires qui se demandaient toujours les critères considérés pour augmenter leur salaire et pourquoi cette somme avec la note bloquée sur leur compte individuel. Cet espoir s'est volatilisé quand ils ont vu une note du directeur général de la coopérative d'épargne de crédit pour l'autodéveloppement des militaires CECADEM justifiant ainsi le blocage de la somme sur les comptes individuels des militaires que c'est de leur intérêt en vue d'élaborer une nouvelle stratégie de paix sur les téléphones. Une justification qui n'a pas convaincu les militaires qui se sont entretenus avec la radio Nzamba sous l'anonymat. Le commandement de l'armée prévoit de faire une tournée de causerie dans toutes les divisions où certains militaires attendent un message ou un discours allant dans le sens de la volonté du président de la République pour qu'il n'y ait plus de grogne dans les rangs des hommes en uniforme. Suite à toutes ces inquiétudes, la rédaction de la radio Nzamba Gate Kakawe n'a pas encore eu la version du porte-parole de l'armée burundaise.
Bonfils Niongele, les violences physiques et verbales faites à la journaliste Floriane Ilangabiye devraient préoccuper toute personne qui a le sens d'humanité. À part qu'elle est emprisonnée illégalement, aucune autorité n'a le droit de la violenter physiquement ou verbalement. Ce sont là les propos de Marie-Louise Valichako, présidente du mouvement Inamahoro, Femmes et Filles pour la Paix et la Sécurité. Elle le dit après que la journaliste Floriane Ilangabiye a été violentée dans la soirée de mardi par le directeur de la prison de Muyinga où la journaliste est détenue. Écoutez Marie-Louise Valichako.
Ce qui est arrivé à Floriane hier, lorsque le directeur de la prison et ceux qui l'accompagnaient sont entrés dans la prison des femmes, en se dirigeant directement vers le lit de Floriane, commençant à la fouiller, déchirer ses affaires intimes, en lui proférant des menaces contre comme quoi elle allait comprendre qui il est et que désormais la fierté de Floriane allait prendre fin, toutes les autres femmes détenues étaient pétrifiées. Dès qu'il a ordonné qu'on prenne son poste de radio, elles se sont toutes indignées et elles auraient crié. Et le directeur a insulté Floriane en l'accusant d'être à l'origine de cette révolte. Il l'a encore menacée en lui disant qu'il reviendrait en force et qu'elle verrait alors de quoi il est capable, sur un ton de haine et de mépris à caractère ethnique. Ce que vit Floriane Ilangabiye depuis son arrestation constitue un traitement inhumain et dégradant. La violence physique et verbale dont elle fait l'objet constitue une honte pour la gouvernance de notre pays, dont les personnes en charge n'ont aucune considération et respect pour les personnes qui leur sont confiées. Le directeur de prison a la responsabilité d'assurer la sécurité, le bien-être, la dignité et le respect des droits des détenus. Malheureusement, c'est lui qui les torture sans aucune obligation de rendre compte.
C'était Marie-Louise Valichako, présidente du mouvement Inamahoro. Le tribunal de résidence de Musaga, en mairie de Bujumbura, est accusé de s'ingérer dans une affaire familiale où les parties en conflit étaient pourtant parvenues à un compromis. Il s'agit d'un conflit foncier de la famille de feu Sylvestre Vukwebeli, qui oppose les enfants de la première femme à ceux de la deuxième. La famille est préoccupée par la fermeture de ses maisons commerciales sans aucun avertissement aux locataires, qui estiment qu'ils ne devraient pas être victimes d'un conflit de leur bailleur. On fait le point avec vous, Valérie Mucho.
Les enfants de la famille Vukwebeli, issus de la deuxième épouse, avaient d'abord saisi le conseil de famille pour demander que l'héritage soit partagé entre tous les enfants des deux épouses. Les enfants de la première épouse, qui vivent à Mwaro, à Nyakararo, voulaient jouir eux aussi des biens de Musaga, entre autres, les frais de loyer générés par les maisons laissées par leur père. Les enfants de la deuxième épouse exigeaient, eux, qu'ils soient associés dans la gestion des biens familiaux qui se trouvent à Mwaro. Et la famille avait réussi à rédiger un procès-verbal de réconciliation entre les deux parties. Mais entre-temps, les enfants de la première épouse avaient déjà saisi le tribunal de résidence de Musaga. Pour le moment, les deux familles se sont entendues. Les enfants doivent partager équitablement les richesses de leur père, selon le procès-verbal. Malgré la réconciliation des deux parties, la présidente du tribunal de résidence de Musaga s'est précipitée pour fermer toutes les maisons de la famille Vukwebeli, alors que l'arrêt du tribunal précise que l'argent issu des loyers sera versé sur un compte bancaire ouvert au nom du tribunal.
Ces enfants ont enfin trouvé un compromis qui doit partager l'héritage équitablement dans une rencontre qu'ils ont organisée. Ceux de l'intérieur du pays ont décidé de suspendre la plainte qu'ils avaient déposée au tribunal de résidence de Musaga. Ils ont par après informé les familles qu'ils veulent partager l'héritage en passant par l'aîné des enfants de Mwaro, qui semble le plus impliqué dans ce conflit. Il a tenu à informer la présidente du tribunal de Musaga, Anita Nyabenda. Visiblement, elle aurait été corrompue parce qu'elle vient de ternir l'image de la justice burundaise.
Les proches de la famille Vukwebeli demandent que justice soit faite et que le droit des locataires soit respecté. Ces derniers se sont vus intimer l'ordre de quitter les maisons qu'ils louent sans préavis.
Le tribunal de Musaga est venu avec des cadenas pour fermer les restaurants, les ateliers de couture et bien d'autres qui exercent divers métiers. Ils ont tous été chassés. Imaginez sortir des marmites et des aliments pour le restaurant, du lait. Tout ce qui s'y trouvait a été sorti violemment. Cela veut dire qu'on a violé le droit des locataires. C'est dommage que cela se passe dans un pays où il y a des autorités. Nous demandons au chef de l'État de secourir ces orphelins qui ne savent plus à quel sens se vouer alors qu'ils ont l'héritage de leur père.
La rédaction de la radio Inzamba, Agathe Kakaawe, a contacté par téléphone la présidente du tribunal de résidence de Musaga, Madame Anita Nyabenda, pour plus de précisions sur ses lamentations. Elle a répondu que le tribunal de résidence de Musaga a exécuté le jugement qui a été confirmé par le tribunal de grande instance, mais n'a pas voulu donner plus de détails.
Valérie Mucho, merci. Le procureur de la République, Amakamba, confond ses fonctions avec son appartenance au parti au pouvoir. C'est le constat de maître Félix Niyonguru. Cet expert du droit pénal fustige l'ordre de Claver Sabushimike de faire libérer deux Imbonerakure de la commune Kibago après avoir été arrêté pour avoir été surpris en possession de vitres de la permanence communale du parti CNL à Kibago. Selon maître Félix Niyonguru, cette attitude est une entrave à la réconciliation des Burundais. On l'écoute.
Ce qui a été fait par le procureur de la République à Makamba d'instruire le PG enquêteur d'arrêter les enquêtes menées contre des Imbonerakure accusés d'avoir démoli la permanence du parti CNL en commune et Kibago et contre la loi burundaise, car l'article 3 du code de procédure pénale précise bien que les officiers de police judiciaire sont chargés de rechercher les auteurs des infractions à la loi pénale, de réunir les indices à leur charge et de les mettre à la disposition du ministère public. Ce qui veut dire que l'OPG devait bien faire la clôture de l'enquête, doivent faire parvenir directement l'original des procès-verbaux qu'il a adressé, tout acte, document et relatif. C'est le ministère public seul qui peut clôturer le dossier après instruction, bien sûr, soit par classement sans suite du dossier ou transmettre le dossier pour fixation devant le tribunal compétent. Le comportement du procureur de la République à Makamba entre dans la logique de l'impunité souvent observée au Burundi d'une part, et d'autre part, son procureur ne parvient pas à différencier sa fonction à l'idéologie du parti au pouvoir ou de ses membres. Tout cela peut avoir des conséquences néfastes, tant psychologiques et sociales. L'État empêche également une véritable réconciliation nationale, surtout que la population qui n'a plus confiance à la justice va se faire justice. En perpétuant l'impunité, l'État prive la société de tout moyen de renforcer l'état de droit.
Inzamba.
Suite de cette édition, des chefs de colline en commune Nyanzalak, province Makamba, sont accusés de fausser les quittances quand ils perçoivent des amendes sur la hausse illégale des prix des produits de la Braroudi. Ils sont aussi dénoncés sur l'usage de deux poids deux mesures sur la même infraction sur base de corruption. Karine Doussabé nous fait le point.
Selon les propriétaires de Bissois en commune Nyanzalak, certains chefs de colline procèdent aux fraudes massives, surtout pour les quittances des amendes. Il donne l'exemple du chef de colline Buhieka, Célestin Bukuru, qui complète en chiffres une somme de 50 000 francs burundais, alors qu'en lettres il écrit 5 000 francs. Et cela se fait pour tous les bistrots qui sont infligés de cette amende sur la hausse des prix des produits de la Braoudi. Les commerçants se demandent comment il peut commettre une même erreur sur plus de 4 propriétaires de bistrots sanctionnés pour la même infraction et à des dates différentes. Le même chef de colline, Buhieka, est accusé de pratiquer le deux poids deux mesures dans les sanctions qu'il prend contre ceux qui sont accusés d'augmenter les prix. Ils expliquent que seuls les bistrots qui ont embauché des filles sont sévèrement sanctionnés, à condition que ces filles refusent à cette autorité d'entretenir des relations amoureuses. Ces propriétaires de bistrots se demandent si ces fraudes sont connues ou non par les autorités de la commune Nyanzalake. Sur ces accusations, la radio Inzamba a contacté par téléphone Célestin Bukuru, chef de colline Buhieka, pour connaître sa version, mais sans succès. Les habitants de Nyanzalak demandent au ministère de l'Intérieur de procéder à la vérification des amendes perçues pour que ce chef de colline soit puni conformément à la loi.
Merci Karine Doussabé. Les téhiculteurs de la province Kayanza demandent au gouvernement de revoir à la hausse le prix du kilogramme de leur production. Ils disent que le prix de 280 francs burundais par kilo est insignifiant compte tenu du coût de la vie. Ils disent que la culture du thé exige également beaucoup de moyens. Josephine Jones, Mundimana.
Ces téhiculteurs de la province de Kayanza disent que la culture du thé exige beaucoup de moyens. Ils indiquent que les 280 francs burundais par kilo de feuilles vertes de thé est un prix infime au regard des prix d'autres produits de première nécessité qui ont connu une montée vertigineuse sur le marché. Ils demandent que le kilo de feuilles vertes soit fixé au moins à 1000 francs burundais.
Les prix de tous les produits ont fortement grimpé et qu'ils essaient de revoir à la hausse le prix du kilo. Le prix d'un kilo de feuilles vertes de thé, surtout que sa cueillette se fait dans des conditions difficiles, en période pluvieuse. En plus, après avoir payé l'employé qui fait la cueillette, il ne reste pas grand-chose. 280 francs le kilo, c'est très peu. Qu'il y revoie à la hausse le prix officiel, car au Burundi, il n'y a aucun produit qui s'achète à 280 francs le kilo. Au minimum, le kilo devrait être fixé à 1000 francs, car le thé est une source importante de devises pour le pays. Malheureusement, nous n'en bénéficions pas. Tenez par exemple, les intrants s'achètent 500 francs le kilo et eux nous donnent 280 francs pour un kilo de feuilles vertes de thé. Vous entendez bien que nous ne travaillons que pour leurs intérêts. Moi, je demande au minimum 1000 francs par kilo. Regardez, à commencer par le sarclage, la cueillette, jusqu'à la commercialisation et ensuite attendre la période de paye. Aujourd'hui, ils ne respectent même pas la date de paye qui était fixée au 15 du mois par le ministère de l'Agriculture, mais la paye arrive après le 25.
En 2021, le gouvernement a augmenté le prix des feuilles vertes du thé à 30 francs. Les théiculteurs venaient de passer 9 ans à vendre des feuilles vertes de thé par kilo à 250. La situation se présente ainsi au moment où le kilo du café cerise vient d'être récemment revu à la hausse. Le kilo est passé de 800 francs à 1280, une mesure qui a été prise après plusieurs années de l'augmentation des caféiculteurs.
Joséphine Jones Mundimana, la direction du Bureau burundais de normalisation et contrôle de qualité, avoue que le BBN est dans l'incapacité de contrôler la qualité de certaines marchandises. Lors de la réunion des membres de la zone de libre-échange continentale africaine tenue à Bujumbura ce mercredi, Severin Sleikengira, directeur du BBN, a indiqué que cela freine la commercialisation des produits burundais sur le marché mondial. Selon lui, des démarches sont en cours pour trouver une solution. Suivez-le.
Les laboratoires du BBN ne sont pas accrédités ou tel service de certification n'est pas accrédité. Et ceci, même si les laboratoires du BBN ne sont pas accrédités, il y a d'autres chemins qui nous permettent d'accompagner nos produits afin qu'ils soient commercialisés au niveau international. Maintenant, il y a des produits qui vont à Dubaï, des produits qui vont aux États-Unis, des produits qui vont en Afrique d'ici, en accompagnement avec le certificat du BBN en attendant là. Il y a des difficultés d'acceptabilité de nos produits sur les marchés internationaux parce que, effectivement, le BBN cesse et pour avoir la certification système, sinon, le certificat des produits, nous en avons le pouvoir. Et maintenant, nous sommes vraiment engagés à ce que le BBN soit certifié système et aussi l'accréditation de nos laboratoires. Ce ne sont pas seulement les laboratoires du BBN, mais il y a aussi d'autres laboratoires de l'infrastructure nationale qualité du Burundi, comme les laboratoires de l'ISABU, les laboratoires du CNTA, les laboratoires de l'INSP. On est en train de s'essayer. Mais même avant d'être accrédité ou d'être certifié système, je pense qu'il y a des chemins puisque nous appartenons à beaucoup d'organisations internationales comme l'ISO, comme le Codex Alimentarius, l'ARSO.
Poursuivons ce journal par cette brève. Trois réfugiés du camp de Lucenda en République démocratique du Congo ont été blessés depuis le début de cette semaine. Les informations en provenance du camp indiquent que le commanditaire des forfaits est un combattant du groupe Mai Mai qui le fait pour des motifs non encore connus. Certains des victimes ne peuvent plus s'asseoir à cause des blessures, tandis qu'un autre aujourd'hui ne peut plus lever la main. Toutes ces informations sont confirmées par le porte-parole du comité de représentation des réfugiés au camp de Lucenda. Ces réfugiés demandent qu'ils soient protégés. Et pour terminer, des réfugiés burundais vivant à Lilongwe, capitale du Malawi, ont été arrêtés dans une rafle de la police au matin de ce mercredi, leur demandant les pièces d'identité. Beaucoup ont été acheminés à la prison centrale et d'autres se sont enfuis. Le gouvernement malawite a pris la décision de relocaliser tous les réfugiés urbains et demandeurs d'asile vers le seul camp de réfugiés de Zaleka. Suivez ce reportage d'Evelyne Mukeshima Anna.
Cette rafle a eu lieu en grande partie à 5 km de la capitale Lilongwe. C'était vers 3h du matin de ce mercredi. La police malawite chargée de l'immigration a surpris les réfugiés de différentes origines, surtout des Burundais, qui n'ont pas de pièces d'identité. Ceux qui n'en avaient pas ont été vite embarqués à bord des camions vers la prison centrale, comme ce réfugié l'indique.
On s'est réveillé vers 4h du matin et les autres vers 9h du matin pour vaquer à nos activités comme d'habitude. Arrivé là, on a été surpris par la police de l'immigration nous demandant des pièces d'identité des réfugiés. Ils nous ont arrêtés dans la zone 36 et 25, Pauma, Kandikole et autres.
Ce réfugié burundais montre que beaucoup parmi les réfugiés n'ont pas ces identités pour vivre en dehors du camp de Zaleka.
Franchement, nous n'avons pas de pièces d'identité, à part les papiers appelés FUM, qui nous identifient comme réfugiés, mais on n'a aucune pièce démontrant que nous vivons en dehors du camp.
Le gouvernement de Malawi, quant à lui, a pris la décision de relocaliser tous les réfugiés urbains vers le camp de Zaleka pour faire respecter la loi de 1989 sur les réfugiés du Malawi, selon une loi advocacy, une entité indépendante qui défend les droits des réfugiés au Malawi.
Evelyne Mukeshimana, c'est par vous que se termine cette édition. Merci à la rédaction de la radio Inzamba, Agathe Kakawe, pour la production de ce journal. Un grand merci surtout à vous, chères auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Au micro, vous étiez avec Pierre Garungu. Au revoir et à la prochaine.